aussi à toute l'équipe de louange.
Vous avez été bénis? Parce que Dieu a commencé à parler à vos cœurs ce matin. Parce que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Amen? Amen. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Alors, on veut remercier Bruno, je ne sais pas s'il s'est poussé. Vous avez vu qu'il y a un mur là-bas. C'est pas le mur des lamentations. Peut-être le fruit de quelques prières et lamentations. Amen, hein? Ça va être notre nouvelle salle d'allaitement. Ça s'en vient, ça s'en vient. Merci. Tournez avec moi dans Matthieu 8. Tournez dans Matthieu 8 ce matin. Ce matin, on a Étienne aussi qui est avec nous. Je pense que c'est la première fois. Est-ce que j'ai raison? Étienne Roy? C'est la première fois qu'il est avec nous. Hein? Peut-être qu'il est en haut. Il est en haut. Allez, félicitations encore, mes parents. Le fils de Yannick et Annie-Claude. Un sujet de prière. Hein? Toute l'Église a travaillé sur celui-là. À la fin, avec l'accouchement, tout ça. Quelle sorte de foi avez-vous? Quelle sorte de foi est-ce que vous avez? Vous êtes ici ce matin, à quelque part, Dieu est en train de faire quelque chose dans votre vie. Peu importe où vous êtes, dans votre cheminement par rapport à Dieu, à moins qu'on vous ait attaché pour vous amener ici ce matin, Dieu est en train de faire une œuvre dans votre vie. Mais quelle sorte de foi avez-vous? Ou je pourrais poser la question autrement, je pourrais vous demander, quelle sorte d'attitude avez-vous à l'égard de Jésus? Quelle sorte d'attitude avez-vous à l'égard de Jésus? Voyez-vous, je vais vous parler de trois groupes, juste pour introduire le passage ce matin. Il y a des gens qui croient en Jésus-Christ et avec une foi pure et belle. Ce groupe d'individus-là sont des gens qui croient vraiment en Jésus au point de prendre Jésus sur une parole. Prendre Jésus au mot, comme on dit. Une parole de Jésus, tout est clair, les directives sont claires. Oui, monsieur! Ça, c'est le premier groupe. Et il y a une vie qui découle de ça, de cette attitude de foi. Il y a un deuxième groupe d'individus qui, eux, ne croient pas du tout en Jésus. Mais pas du tout. Voire même en Dieu. Pour ces gens-là, Dieu n'a rien à voir. Jésus-Christ n'a rien à voir. Maintenant, ce groupe-là est beaucoup moins nombreux sur la terre. La majorité des êtres humains croient en Dieu, quel qu'il soit. Mais il y a quand même un groupe d'individus pour qui Dieu n'existe pas, Jésus-Christ, rien à voir avec ça. Beaucoup moins nombreux, ça existe. Il y a un troisième groupe d'individus. Beaucoup plus nombreux, extrêmement nombreux, en fait, probablement la majorité des êtres humains. Il s'agit de ceux qui s'intéressent à Jésus. Ces gens-là manifestent un intérêt pour la personne de Jésus. D'une certaine manière, ils croient en lui. Mais pas tout à fait. Là, il y a toutes sortes de variantes possibles. Ce groupe-là est très, très vaste. Il y a toutes sortes de gens qui se retrouvent à l'intérieur de ce groupe. Par exemple, dans ce groupe, il y a des gens qui trouvent que Jésus est un phénomène intéressant. Jésus, c'est un phénomène intéressant, que ce soit en termes de philosophie de vie, une grande sagesse ou des principes de bonheur, il y a quelque chose là-dedans. Un phénomène intéressant. Ou des principes même de prospérité. Phénomène à étudier. Mais vous sentez la distance qu'il y a là. Dans ce même groupe, il y a ceux qui voient en Jésus peut-être quelqu'un qui a eu un contact spécial avec une autre dimension. L'au-delà, quelque chose qui transcende notre vie ici-bas. Peut-être que Jésus est un de ceux qui auraient eu un contact avec quelque chose l'autre bord. Ceux-là sont différents, vous voyez. Ils vont venir écouter Jésus en cherchant. Peut-être qu'il y a un message là-dedans, dans tout ce qu'il a dit. Peut-être qu'il y a quelque chose pour moi. Ça va plus loin que le phénomène, mais en même temps, vous voyez, dans ces deux sous-groupes-là que j'ai mentionnés, il y a toujours cet élément de distance qui est là. On vient à Jésus pour l'étudier, pour l'examiner. On va écouter, mais on ne se laissera pas embarquer. Oui, mais pas tout à fait. Il faut garder un regard un peu, tu sais, au moins un peu de bon sens. Rester sceptique un petit peu. Puis on prendra ce qui est bon. Très nombreux. Très, 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 très nombreux. Je vais l'écouter, puis je jugerai après s'il y a quelque chose qui vient me rejoindre chez ce Jésus ou dans la Bible. Garde un regard critique. On ne se laisse pas embarquer. Et la majorité des gens qui ont rencontré Jésus dans son passage sur terre, à l'intérieur des évangiles, la majorité des gens ont eu exactement cette attitude-là. Phénomène intéressant, faisait des miracles, c'était incroyable. Tu ne pouvais pas comme juste fermer les yeux là-dessus. Il fallait que tu ailles l'écouter. « Hey, t'as-tu entendu parler de ce Jésus? Ouais, ça a l'air qu'il s'en vient en ville. Je pense que je vais y aller à soi. Je vais aller l'écouter. » Phénomène intéressant à étudier. Maintenant, il y a un autre groupe aussi. Dans ce troisième groupe, il y a un autre sous-groupe qui est là. Et c'est tous ceux qui disent croire en lui, mais qui gardent une certaine réserve. Ils croient en lui, mais il y a quand même un petit frein qui est là quelque part. Ces gens-là vont dire des choses comme « Je crois en toi. » « Oh oui, je crois en toi, c'est clair, je veux te suivre, mais laisse-moi aller régler quelques affaires avant. » Ou bien ces gens-là vont dire, « Écoute, je crois en toi, t'es pas mal fort, on reste en contact, OK? On reste en contact, toi puis moi. Je t'embarque sur ma liste d'amis. » C'est comme ça que ça marche, Facebook? C'est ça? « Je t'embarque sur ma liste, Jésus, tu vas faire partie de mon réseau. Écoute, il y a quelque chose là-dedans pour moi, ça c'est clair. » Je t'embarque dans ma liste. Si j'ai bien compris, c'est de même que ça marche. Toujours bon d'avoir Jésus dans son réseau de contacts, non? Il y a quand même des plugs pas pires. Toujours bon de l'avoir dans ton réseau. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont avoir cette attitude. Je crois en toi, je t'appelle quand j'ai besoin. Je t'appellerai quand j'aurai besoin. Trois groupes d'individus. Donc, le premier, Jésus est tout pour toi. Une parole de sa bouche suffit. Tu passes à l'action, ta foi est bouleversée, t'écoutes, le cœur est disponible. Deuxième, Jésus n'a absolument rien pour toi. Beaucoup moins nombreux. Beaucoup moins nombreux. Probablement pas très, très nombreux ce matin. Un, deux, peut-être, peut-être. Troisième groupe, Jésus fait partie de ton réseau. Ce matin, on va voir dans ce passage, dans Matthieu, on va voir une personne qui fait partie du premier groupe. Ça prend une parole de Christ et tout est changé. Un mot de Jésus change tout. Disponible, le cœur ouvert. Et on va voir plusieurs personnes qui font partie du troisième groupe. Est-ce que Jésus a à nous dire là-dessus? Parce que si j'ai bien compris le principe de Facebook, la manière que ça fonctionne, si j'ai bien compris, Jésus a aussi son mot à dire pour décider si tu fais partie de sa liste d'amis, c'est ça? C'est de même, ça marche? Ce matin, on va voir lesquels font partie de la liste d'amis de Jésus. Il ne suffit pas de dire « T'es hot, je veux t'avoir dans mon réseau. » Encore faut-il que Christ te dise « Puis moi aussi, j'aimerais que tu fasses partie de mes amis. » C'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. Matthieu 8, versets 5 à 13. Un beau passage. Normand nous a introduit dans le chapitre 8, la dernière fois qu'on était dans Matthieu. Et on a vu ensemble que Jésus, après le sermon sur la montagne, s'est approché d'un lépreux. Non seulement il a guéri un lépreux, mais il a touché un lépreux. Jésus est venu toucher à celui qui était impur physiquement pour le guérir. Et comme Normand l'a très bien illustré, Jésus l'a fait avec une autorité, mes amis, extraordinaire. T'aurais voulu que Jésus te touche. T'aurais voulu que Jésus te touche. T'aurais voulu prendre la place de ce lépreux à ce moment-là pour que Jésus te touche. J'ai vraiment aimé ça. Ce que moi je touche me rend impur. Ce que Jésus touche, il le purifie. J'ai vraiment aimé ça. Lorsqu'on arrive dans ce passage, Jésus va venir rencontrer maintenant quelqu'un qui incarne une autre sorte d'impureté parce que c'est un païen, c'est un non-juif. En plus, il fait partie du camp des vainqueurs, de l'envahisseur. Il incarne tout ce qu'il y a de plus détestable chez l'ennemi. À part un publicain, cet homme-là incarnait probablement ce qu'il y avait de plus détestable aux yeux des bien-pensants en Israël. Matthieu 8, verset 5. « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier ou un centurion l'aborda, le priant et disant, « « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, littéralement émerveillé, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, viens nous rencontrer ce matin. Tu as été émerveillé par la foi de ce centurion. Matthieu nous dit que tu as été dans l'étonnement. Cette rencontre a fait toute ta journée, Seigneur. Accorde-nous la grâce ce matin d'être éclairés par ton esprit. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous saisissions cet émerveillement qu'il y avait en toi. Que nous comprenions ce qu'il y avait de si beau dans la foi de ce soldat romain pour que tu le donnes en exemple à ceux qui te suivaient et t'écoutaient, à ceux qui buvaient déjà tes paroles, à ceux qui étaient eux-mêmes impressionnés par toi. Qu'y avait-il chez cet homme, Seigneur, de si beau pour que tu affirmes que l'éternité en dépend? Seigneur, je te prie d'être avec moi. Je te prie de m'accorder la grâce de communiquer clairement ta parole ce matin. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs. C'est en Jésus-Christ que je te le demande, bon Père. Amen. Amen. Il faut vraiment saisir ce qui se passe ici. On est à Capernaum. La personne qui vient vers Jésus, comme je l'ai mentionné, c'est un soldat romain. Voyez-vous ce que Matthieu est en train de faire ici? Matthieu est en train de nous montrer que Jésus a autorité et Jésus va vers ce qui est impur. Il a commencé avec le lépreux, impur physiquement. Je veux dire, il n'y a pas un juif qui allait toucher un lépreux. Ensuite, Jésus va donner ce soldat romain en exemple. Il y a un message de Matthieu ici. Matthieu est en train de nous parler de ce Jésus, du royaume des cieux. Il est en train de nous parler de la grandeur de Christ et comment ça fonctionne dans son royaume. Alors, cet homme qui vient vers lui, c'est un soldat romain. C'est un centurion ou un centenier. Ces hommes-là avaient une grande autorité. Généralement, ils avaient à peu près une centaine d'hommes sous leur responsabilité. Imaginez un instant que vous êtes dans un pays sous occupation, étrangère, quelconque. Le centurion serait l'incarnation de tout ce qu'il y a de plus détestable chez l'ennemi. Parce que vous voyez, il n'y a pas personne en Israël qui a rencontré César ou l'empereur. Ils avaient beau l'haïr, jamais il allait lui voir la bine à César. Mais le centurion commandait 100 hommes, 80 hommes. Il était là, il habitait parmi le peuple, littéralement, parce qu'il venait occuper la ville. C'était celui qui commandait, celui qui pouvait maltraiter n'importe qui. Et c'est ce païen, ce non-juif qui vient vers Jésus, qui vient s'adresser à Jésus. Alors, contre toute attente, ce soldat romain, qui est le vainqueur, qui a l'autorité, vient vers Jésus pour lui demander de guérir son serviteur. Disons que ce n'était pas un soldat ordinaire. C'était pas une personne tout à fait ordinaire. Il y a certaines qualités chez cet individu qui sortent de l'ordinaire. D'abord, il vient vers un juif. Et le texte qui est là, lorsque vous regardez au verset 6, il vient le priant. L'idée qui est ici, c'est pas juste « Écoute, je te prierai de me passer le poivre et le sel, s'il te plaît. » C'est pas ça qui est là. C'est une supplication. Ça peut vouloir dire qu'il s'est jeté à genoux. Il est venu supplier un juif. Lui, le centurion romain, possiblement se jeter aux pieds de Jésus et lui adresser la parole « Maître ou Seigneur ». C'est pas un homme comme tous les autres. Il y a une espèce de brisement chez cet homme-là qui est assez extraordinaire. Et puis, il vient pour demander la guérison de son serviteur. C'est assez particulier aussi. Il vient, il se jette aux pieds de Jésus, il lui demande de guérir son serviteur, et comme vous connaissez le punch, ben, je vais vous le donner, Jésus va guérir son serviteur. Et il y a quelque chose de spécial dans le texte, parce que c'est comme si le miracle est secondaire. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'espace là, sur le miracle? C'est comme si le miracle est là juste pour nous donner une leçon. Il y a un soldat romain qui vient, qui demande un miracle. À la fin, un dernier petit verset, il a été guéri dans l'heure. C'était secondaire pour Matthieu. Matthieu écrit souvent comme ça. Il enlève un paquet de détails. Si vous allez voir des fois des textes parallèles dans Luc, Luc donne plein de détails. Matthieu, lui, veut la leçon spirituelle. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Mais voici la leçon spirituelle. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Oui, oui, il l'a guéri, c'est beau, il l'a guéri. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a nous enseigné là-dessus? Qu'est-ce que Christ a voulu nous enseigner? Et il y a vraiment une leçon sur le royaume de Dieu qui est ici, qu'on doit recevoir. Qui va faire partie de la liste d'amis de Jésus-Christ? Qui va entrer dans le royaume des cieux? C'est ça qui est là. Jésus, au verset 10, et vraiment dans l'étonnement. C'est fascinant parce que la dernière fois que Normand a prêché, il parlait de la foi, puis il a mentionné quelque chose de tout à fait vrai. On ne surprendra jamais Dieu avec notre foi. C'est vrai. Je veux dire, Dieu, comment tu peux le surprendre avec ta foi? Il va toujours te dépasser. C'est un principe biblique. Crois, il va faire plus que ça. Il va toujours dépasser ta foi. Et pourtant, il y a quelque chose ici. Dans l'humanité de Jésus-Christ qui est fantastique. À quelque part, le Fils de Dieu était tellement humain dans son expérience. Et il nous est dit dans les évangiles que Jésus connaissait le cœur de l'homme. Jésus connaissait le cœur de l'homme. À quelque part dans son humanité, Jésus arrive devant ce témoignage de foi. Un être humain peut avoir une foi semblable. Je n'ai même pas vu ça en Israël. En fait, dans Marc 6, je crois, il va nous être dit aussi que Jésus est surpris, mais par l'incrédulité de certaines personnes. Jésus fut étonné de leur incrédulité. À vous de choisir comment vous voulez surprendre Jésus. À vous de choisir. Mais Jésus est vraiment émerveillé, c'est ça le terme qui est là. Son cœur est surpris. Essayez d'imaginer la scène. Il y a une foule qui le suit, on le sait, il était constamment pressé de toutes parts, si bien qu'à un certain moment donné, il y a un miracle qui se fait par quelqu'un qui réussit juste à le toucher à travers la foule. Il y avait une foule qui le pressait, qui était là, les gens buvaient ses paroles. Il y a un centurion romain qui vient, il lui adresse la parole et à cause de ce qui est dit là dans l'échange, Jésus s'arrête, oublie toute la conversation avec le centurion, se retourne vers les personnes qui sont avec lui puis il dit « Hey, avez-vous entendu ça? » Mais avez-vous entendu ça? J'ai jamais vu ça en Israël! Jésus n'en revient pas de ce qu'il a entendu là. Il est émerveillé de voir la foi de ce centurion. Il est impressionné par ses paroles parce qu'il n'a jamais rencontré une aussi grande foi en Israël. Et puis là, Jésus commence à enseigner. C'est comme s'il y a une pause, on dirait. Le centurion est là, puis tout d'un coup, il n'est plus là. Et il a servi à Jésus pour enseigner. Et c'était ça, les miracles, souvent. Hein? C'était pour nous faire découvrir Christ et son royaume. Alors, c'est comme si Jésus met pause sur le centurion un instant, puis là, il dit, OK, on va parler du royaume, parce qu'ici, on a vraiment le royaume de Dieu. Et là, il commence à les enseigner. Et on voit ça dans les versets 10, 11, 12. Après l'avoir entendu, verset 10, Jésus dit dans l'étonnement, il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Jésus commence à enseigner. Il commence pas seulement à enseigner, il commence à exhorter les Juifs qui sont là, qui le suivent. Jésus, intentionnellement, dans ses propos, veut troubler leur cœur. Est-ce que vous le percevez? C'est très provocateur ce que Christ fait ici. C'est un païen, un soldat romain, un centurion. Voici le modèle. C'est ça que Jésus dit à des Juifs. Jésus veut troubler leur cœur. Il veut éveiller leur âme. Il veut aller les chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Il veut les secouer. Et Jésus commence à enseigner. Il dit, je vous déclare, plusieurs viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Depuis le début de l'évangile de Matthieu, Matthieu veut nous enseigner, nous donne des indices que le royaume des cieux va être ouvert à toutes les nations de la terre. Est-ce que vous vous rappelez quelques indices? La généalogie de Matthieu? Matthieu volontairement a souligné la présence de certains païens, de femmes païennes dans l'historique généalogique de Jésus. Il y avait des exemples. Qui sont ceux qui viennent adorer Jésus? C'est qui? Les mages. Les mages, des païens qui viennent de l'Orient, qui viennent adorer l'enfant Jésus. Il y a ces indices-là à travers tout le texte. Et là, ce que Jésus nous dit ici, il dit, « Viens un jour où des gens viendront de l'Orient et de l'Occident pour être à table avec Abraham. » Et il fait allusion ici au festin dans le royaume des cieux. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus va carrément commander à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations. » Alors, Jésus est en train d'enseigner sur le royaume. Il est en train de dire, dans mon royaume, il va y avoir tous ceux qui ont la foi du centurion. Quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur descendance, dans mon royaume, il y aura ceux qui auront eu la foi de ce centurion. Dans mon royaume. Et Jésus fait allusion ici à plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent d'un banquet, d'un festin qui est préparé où on va être dans la présence de Dieu pour l'éternité, libéré de ses luttes, de ses combats sur la montagne sainte, là où il y aura la ville sainte et tous les enfants de Dieu seront rassemblés. Un de ces beaux passages se trouve dans Ésaïe 25, verset 6, et je vais vous le lire. Mais prenez ça en note, prenez le temps d'aller le lire. Ésaïe 25, 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. Si je comprends bien les Écritures, c'est la montagne dont il est question dans Hébreux. Celle que nous avons touchée. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux et clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. Dieu avait promis à Abraham de bénir à travers sa descendance toutes les nations de la terre. Jésus est en train de faire allusion à cela ici. Un jour, des gens de tous les peuples, et à mon avis, c'est inauguré, c'est commencé, c'est l'Église de Christ. Est-ce que un de vos ouvriers à temps plein n'est pas un juif, puis l'autre un païen? Jésus est en train de dire un jour, on va voir des gens arriver de partout sur la terre, pour venir adorer, pour venir célébrer. Et ces gens-là viendront s'asseoir. Et littéralement, ce qui est ici, ça nous parle du festin, du banquet avec Abraham, Isaac et Jacob, étendus autour de la table pour manger, comme ça se faisait à l'époque. Christ nous dit, tous ceux qui ont la foi de ce centurion vont être là au festin. Mais, il y a un autre groupe d'individus. Et regardez ce que Jésus dit. Les fils du royaume, verset 12, seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans ce passage, c'est très clair à cause de l'opposition que Jésus est en train de faire. Les fils du royaume, ce sont les Juifs qui n'auront pas eu la foi du centurion. C'est très clair qu'il va y avoir des Juifs dans le royaume. Abraham, Isaac et Jacob sont déjà un bel échantillon, n'est-ce pas? Mais il y a de ceux qui, par héritage, devraient être les fils du royaume, parce qu'ils sont Juifs, c'est eux qui ont eu la promesse, c'est eux les enfants de la promesse, c'est eux qui avaient tout reçu. De ces gens, un grand nombre seront jetés dans les ténèbres du dehors. Jésus est en train de parler ici de l'enfer, de la géhenne. Dans toutes les saintes écritures, la personne qui parle le plus de l'enfer, c'est Jésus-Christ. Vous saviez ça? C'est lui qui en parle le plus. Il va y avoir les pleurs et les grincements dedans. Les ténèbres du dehors où on sera séparé de Dieu. Christ est venu pour sauver des pécheurs du jugement éternel. S'il n'y a pas de jugement éternel, pourquoi Christ serait-il venu mourir sur une croix? Christ est venu pour sauver tous ceux qui vont avoir la foi de ce centurion d'un jugement éternel. Et tous ceux qui ne l'auront pas, fussent-ils héritiers de la promesse par descendance, tous seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Ce n'est pas des farces, parce que la croix, ce n'est pas une farce. Ce n'est pas des blagues. Christ avait mieux à faire que mourir sur une croix si ce n'était pas pour nous sauver de l'enfer. Maintenant, ce qui est frappant dans ce passage-là, c'est que Jésus présente deux groupes. Et voyez-vous, on aurait pu croire qu'il aurait opposé ceux qui ont la foi avec les meurtriers, les débauchés, les adultères, les immoraux, les menteurs, les voleurs. C'est pas ça qu'il fait ici. Jésus oppose ici ceux qui ont la foi avec ceux qui pensent avoir la foi. C'est ça qui se passe. C'est les fils du royaume, héritiers et descendants d'Abraham. J'ai tout pour moi. C'est pour ça que Jésus a dit à la fin de Matthieu 7, « Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Il y a quelqu'un qui a dit, et je pense que c'est pas mal juste, « La doctrine de l'enfer n'a pas été donnée pour faire peur aux non-croyants, premièrement. Elle a été donnée pour faire réfléchir ceux qui pensent qu'ils sont croyants. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on prêche l'Évangile, on ne doit pas parler de l'enfer. On doit le faire. Si les gens ne saisissent pas de quoi ils sont sauvés, comment peuvent-ils être sauvés? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme Évangile s'ils ne réalisent pas qu'ils sont sauvés d'un jugement et qu'ils sont aimés et reçus par Dieu en Jésus-Christ? Alors, il faut le faire. Mais Jésus, très souvent, se sert de cette vérité pour amener une réflexion, nous amener à entrer à l'intérieur de nous-mêmes et nous remettre en question. C'est ça qu'il fait ici. De peur qu'un grand nombre de bien-pensants, se disant que tout est correct, sont en sécurité et qu'il n'ait des surprises de l'autre côté. Et c'est ça qu'il y a ici. Tous ceux qui n'auront pas la foi de ce centurion ne seront pas sauvés. Jésus est venu nous sauver de l'enfer. Pas de la pauvreté, pas d'une vie triste. Il est venu premièrement nous sauver d'un jugement éternel. Et dans le royaume des cieux, il va y avoir tous ceux qui ont eu la foi du centurion. Juifs, non-juifs, quelle que soit votre histoire, quels que soient vos antécédents, tous ceux qui auront eu la foi du centurion vont se retrouver dans le royaume des cieux. Alors, quelle est cette foi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez cet homme-là? Qu'est-ce qui est tellement extraordinaire avec lui? Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à Jésus dans les évangiles. Il y a plein de gens qui se sont intéressés à Jésus. Les docteurs de la loi s'intéressaient à lui. Pensez à certains docteurs de la loi qui invitaient Jésus à manger chez eux. Ils s'intéressaient. Phénomène intéressant, on va l'écouter. « Hey, tu viendrais-tu manger chez nous? » Même « Maître, est-ce que tu viendrais manger chez nous? » Mais pour l'examiner, pour l'avoir à table, l'écouter, pouvoir dire dans une conversation « Ouais, je l'ai reçu, je l'ai écouté, ouais, bon, ok, c'est bon. C'est bon. Ouais, j'ai vu, je connais. » Beaucoup de gens. Et ces gens-là, parfois, pour pouvoir le rencontrer, l'invitaient manger chez eux. Jamais il se serait dit « Je voudrais l'écouter, mais je ne pourrais jamais l'inviter à manger chez moi. Je ne suis pas digne qu'il rentre dans ma maison. Comment lui pourrait rentrer et venir s'asseoir à ma table? » Ça ne l'aurait même pas passé par la tête. « Regarde, je suis disponible aujourd'hui, tu viens-tu dîner? » Mais voyez-vous l'attitude de ce centenier? Cet homme-là incarne la première béatitude. Lorsqu'on a regardé ensemble le sermon sur la montagne, dans les chapitres 5, 6, on a vu ensemble, dans les béatitudes, la première attitude, celui qui est pauvre en esprit, celui qui a conscience qu'il est un mendiant spirituel. Ce centurion incarne cela. Regardez ce qu'il dit au verset 8. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Je sais, certains d'entre vous sont en train de se dire, « Oui, mais regarde, Yannick, c'est un païen. » C'est parce qu'un juif ne pouvait pas rentrer dans la maison d'un païen. C'est vrai, je comprends ça, je le conçois. Il y a plus que ça ici. Cet homme-là avait vu quelque chose en Jésus que peu d'hommes ont vu. Christ lui-même en a été étonné, émerveillé. Et soyez attentifs à l'expression, il dit, « Je ne suis pas digne. » Il y a quelqu'un d'autre qui a employé exactement la même expression, un juif celui-là, dans Matthieu 3, Jean-Baptiste. « Je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Et nous savons très bien que Jean-Baptiste avait eu cette révélation de savoir que ce Jésus de Nazareth qui venait était beaucoup plus qu'un simple prophète, encore une fois. C'est ce qui poussait Jean-Baptiste à dire « Je ne suis pas digne de porter ses souliers. » C'est la même expression qu'il y a ici. « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. » Cet homme a approché Jésus, non pas avec la tête haute, mais avec un esprit brisé. Il avait conscience qu'il était un mendiant spirituel, qu'il était un pécheur, qu'il n'était pas digne de recevoir Jésus chez lui. Et c'est nécessaire de passer par là si vous voulez avoir la foi du centurion. C'est nécessaire d'avoir un esprit brisé, un cœur brisé par l'état, par nos péchés, si vous voulez trouver la foi du centurion. Autrement, vous ne la trouverez pas. Vous allez approcher Jésus comme quelqu'un qui est dans votre réseau de contacts sur Facebook. « Hey, justement, j'ai entendu dire que tu étais bon là-dedans, j'en aurais besoin. » C'est pas comme ça qu'il approchait. Ce centurion savait qui était Jésus. Il avait perçu quelque chose, il avait saisi quelque chose, et il a approché Jésus avec un cœur brisé. Maintenant, j'aimerais m'adresser juste un instant à tous ceux d'entre vous qui connaissez le Seigneur depuis des années. Vous savez, des fois, notre foi va tout croche. On n'arrive pas à trouver cette foi du centurion. On va la regarder ensemble rapidement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de cœur brisé. Il n'y a pas d'esprit contrit. On a oublié qu'on était des mendiants spirituels. Tout nous est dû. Je suis un enfant de Dieu. Je fais partie de la famille. Christ me doit tout. On ne dira jamais comme ça. Mais c'est cette arrogance qui l'exprime. J'ai appris avec les années à poser un diagnostic sur l'état de mon cœur lorsque ça, ce n'est pas là. Et j'ai appris avec les années que parfois la prière que je dois porter devant Dieu pendant des jours, des fois des semaines, c'est « Seigneur, donne-moi la repentance. Donne-moi un cœur brisé, Seigneur. » Je vous l'ai dit dernièrement, j'ai utilisé l'expression « cheap grace ». Des fois, c'est ça qu'on fait. On vient à Christ, on demande pardon, il n'y a pas d'esprit brisé, il n'y a pas de cœur brisé. Et je crois que ça, c'est une œuvre de l'Esprit-Saint, parce que c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Autrement, je serais un arrogant, je serais loin de Dieu, mais c'est Dieu qui vient produire cela en moi. J'ai appris avec les années, parfois, que ma prière, ma supplication devant l'Éternel doit être pendant des jours. « Seigneur, viens briser mon cœur. Aide-moi à comprendre qui je suis. » afin que je puisse t'approcher avec un cœur de mendiant spirituel. Parce que Dieu s'approche des cœurs brisés, des cœurs humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Cet homme-là avait le cœur brisé, il était conscient qu'il n'était pas digne, mais il y avait quelque chose de fascinant encore là-dedans. C'est l'espèce d'image qu'il va prendre. Cet homme-là était un soldat, il pensait comme un soldat. Toutes ces références, c'était des références de soldats. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien, non, viens pas dans ma maison, je suis pas digne de cela, Seigneur. Mais voici, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à tes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va. Si je dis à l'autre, viens, il vient. Pense en soldat. Dans cette révélation que Dieu lui a donnée de la personne de Christ, ce soldat a placé Jésus dans la chaîne de commandement universelle. C'est ça qu'il a fait. Il résonne en soldat. Qu'est-ce qui fait que les 80 ou 100 hommes qu'il avait sous ses ordres étaient aussi dociles? C'est des hommes de guerre. Comprenez, tu vas vers un homme de guerre qui a appris à manier l'épée. Si tu n'es pas gradé au-dessus de lui, tu ne viens pas vers lui pour lui dire « Si, là-bas. » Non. Non, ça ne marche pas de même. T'as pas compris, là. Y a-tu quelque chose que t'as pas vu? T'as pas vu comment je suis habillé? Regarde mon épée ici, elle a percé plusieurs personnes. Qu'est-ce qui fait qu'un centurion pouvait dire, hey, ici, va-t'en là-bas, prends ça? Ben, c'est parce que derrière lui, il y a le tribun. Puis ultimement, il y a César. Alors, quand le centurion, il dit, ici, si tu dis, parce que tu peux te retrouver devant César. Là, ça se peut que ça finisse avec les lions, cette histoire-là. C'est la chaîne de commandement. C'est la chaîne de commandement. Ce centurion pensait en soldat, a regardé Jésus, a regardé ce qu'il faisait, il a saisi la personne de Christ et il s'est placé lui-même dans la chaîne de commandement. Qu'est-ce que ça l'a amené à faire? Oui, monsieur. Je ne suis pas digne que tu rentres chez nous. Très bien saisi où est-ce qu'il était dans la chaîne de commandement par rapport à Christ. Mais non seulement il a saisi où lui était, mais il a saisi où est Christ dans la chaîne de commandement. Alors imaginez, saisissez la comparaison. Dans sa compréhension de la personne de Jésus, dans ce que Dieu lui a donné de réaliser sur la personne de Christ, pour lui... Jésus est tellement élevé dans la chaîne de commandement universel que pour Jésus, commander une guérison, c'est comme pour un centurion de dire à son soldat, ici, là-bas, fais ça. Christ est tellement élevé dans la chaîne de commandement que non seulement aucun être humain ne lui doit du respect et obéissance, mais les éléments de la nature, toute maladie sur la terre lui doit obéissance. Et ce que ça produit dans cet homme, je vais le dire grossièrement, mais ce que ça produit chez cet homme, cette révélation qui lui a été donnée de la part de Dieu, c'est une foi, oui monsieur, une parole, un mot, oui monsieur, sur n'importe quoi. La maladie, les épreuves de la vie, les commandements. Oui, monsieur. parle, car ton serviteur écoute. C'est la foi du centurion. Cet homme a saisi qui il était. Il avait un cœur brisé, un cœur contrit. Il est venu vers Jésus. Et chose presque totalement absente dans toute l'histoire biblique, Jésus va faire un miracle à distance. Parce que lui n'avait pas besoin qu'il se déplace. Et ceux qui sont familiers avec les Écritures, pensez à Naaman, offensé de ce que le prophète ne se déplace pas pour venir faire le miracle, ne vienne pas à sa rencontre. Pas d'esprit brisé chez Naaman. Mais cet homme-là avait saisi qui était Jésus. Oui, monsieur. Qu'est-ce que Jésus a à dire là-dessus? Ça, ça fait partie de ma liste d'amis. Ça, ça va venir avec moi dans le royaume des cieux. Cette foi-là. Ce matin, je vous ai dit que je vous parlerais de deux groupes d'individus. Il y a ceux qui ont la foi, oui, monsieur, avec Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont jamais posé de questions, hein? Oh, ils l'ont regardé aller. Boy, on m'a enseigné. Je suis allé à l'école du dimanche. Je les connaissais tous, les chants. Puis je me souviens encore à la bibliothèque, au cégep, en train de regarder les livres de philo. Puis... ouf. Tu verrais cette affaire-là. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont cette foi, oui, monsieur, n'ont pas examiné Jésus. Ils l'ont fait. Mais un jour dans leur parcours, un jour dans leur marche, ils ont connu Jésus-Christ. Ils ont réalisé où ils se trouvaient dans la chaîne de commandement universel. Et ils ont connu Christ là où ils se trouvent dans cette chaîne de commandement. Et ça a bouleversé leur vie. Jusqu'à les amener à dire, « Oui, monsieur, une parole, Seigneur, ton serviteur écoute. » Mais il y a les autres. Il y a les autres qui vont rester distants pour examiner Jésus. Je crois en lui, je le regarde, mais je ne me laisserai pas embarquer. Oui, monsieur, tu es malade, ça, c'est bon pour les naïfs, ça. Pour les naïfs ou pour ceux qui ont connu Jésus? Ceux qui savent qui il est, ceux qui se sont connus eux-mêmes et qui savent qui ils sont, des mendiants spirituels. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, dans ton parcours, dans ton cheminement, un jour, tu vas devoir tomber à genoux. Réaliser qui tu es et qui est Jésus-Christ. Parce que Dieu fait entrer dans le royaume des cieux ceux qui ont le cœur brisé et qui reconnaissent en Jésus-Christ celui qui est au sommet de la chaîne de commandement. Maintenant, je m'adresse à tous ceux ici qui connaissent Jésus-Christ depuis des années. Souvent, lorsque Jésus enseigne dans les évangiles, c'est comme blanc ou noir, il n'y a pas de zone grise. Et je suis certain que les trois quarts d'entre vous, la moitié, je ne sais pas, ce matin, vous avez dit, « Yannick, oblige-moi pas à me camper dans un camp ou dans l'autre. Je suis comme à quelque part entre les deux. L'année dernière, j'étais là, puis là, je suis comme là. » Parce que quand Jésus parle, disons que c'est peut-être pas « Oui, monsieur. » C'est pas tout à fait ça. Tu sais, Yannick, il y a certaines choses qu'il faudrait que je t'explique. Qui font que ça a été, mais c'est plus ça. J'ai plus cette foi qui va être là pour moi. J'ai plus cette foi qui va guérir. J'ai plus cette foi qui a cette puissance de changer ma vie. J'ai plus cette foi d'obéir dès qu'il commande. Je ne l'ai plus cette foi-là. C'est cette foi-là que vous voulez, mes amis. C'est cette foi-là que vous voulez. Parce que c'est celle-là que ça prend pour faire partie des amis de Jésus. Parce que c'est celle-là qui va vous faire goûter les bénédictions, comme ce centurion. C'est cette foi-là qui va venir combler vos cœurs. Alors, je ne sais pas si ça fait longtemps que tu tournes en rond. Tu le regardes de loin. Il a donné ses directives déjà. Tu les connais, tu sais ce qu'il attend. Il a donné ses commandements. Arrête de tourner en rond. Arrête de tourner en rond. Écoute, entends, et obéis. Si tu n'es pas capable de le faire, va dans la prière. Tu as oublié où tu te situais dans la chaîne de commandement et la grandeur de Jésus-Christ. Parce que Christ veut t'avoir avec toi dans le royaume des cieux. Ça prend cette foi qui passe à l'action. Seigneur Jésus, je veux te bénir pour ce passage. Et je veux prier pour cette Église, Seigneur. Je veux prier pour cette Église, Seigneur, comme des gens ont prié pour moi et continuent à prier pour moi. Seigneur, mon prof d'histoire, Michael Aiken, avait remarqué depuis quelques années que mon cœur était froid, qu'il y avait quelque chose en moi qui avait été perdu. Il ne m'en a jamais parlé, mais il a prié pour moi, Seigneur. Et lorsque tu as brisé cet orgueil en moi, cette incrédulité, tout ce qu'il a jugé bon de dire, si je l'avais remarqué, Yannick, tu n'étais plus le même. Seigneur, je veux te prier pour cette Église, te prier pour chacun d'entre nous. Tous ceux qui, un jour, ont dit comme ce centurion, un mot, une parole, Seigneur, et je crois en toi. Un mot, une parole, et je sais que j'ai la vie éternelle. Un mot, une parole, et je pars à l'action, Seigneur. Je passe à l'action, commande, j'obéis. Je te prie pour cette Église, Seigneur, pour tous ceux qui ont pris un pas de recul, qui se sont retirés de cette vie de foi pour devenir des critiques, des observateurs de Jésus, des commentateurs de la foi. Seigneur Jésus, viens. Viens faire grandir cette Église. Donne-nous des esprits brisés, des cœurs contrits, afin que nous possédions cette foi qui va te glorifier jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Qu'une parole, qu'un mot de toi suffise, Seigneur, pour que nous croyions, pour que nous agissions et que nous joyons ensemble avec Abraham, Seigneur, dans ce festin éternel. Viens le faire, je t'en supplie, Seigneur. Et je crois en toi. Tu as dit que tu allais bâtir ton Église, Seigneur Jésus. Tu es fidèle malgré toutes nos infidélités. Oh, je crois en toi, Seigneur. Et j'attends, mon Dieu. J'attends cette œuvre de ton esprit. Et tu l'as commencé. Tu l'as commencé, Seigneur, dans moi, dans mon cœur, dans ma vie et dans la vie de plusieurs, Seigneur. Mais j'attends, mon Dieu. J'attends. Et je bénis ton nom pour ce que tu vas faire. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen.